Europan, le catalyseur. Observez le passé, explorez le présent pour préparer l'avenir. Trois épisodes radiophoniques pour écouter et découvrir l'Europan visionnaire, l'Europan mentor et le réseau Europan. Cet événement radiophonique s'inscrit dans la programmation du Forum des 30 ans d'Europan. Il est accueilli par la plateforme de la création architecturale de la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Avec l'atelier Java à la réalisation, Arnaud Paillard à l'animation et Guillaume Legret à la technique. Une émission diffusée en direct sur Radio Campus Paris, Radio Campus Orléans et Studio Zef à Blois.
De la ville, les temps municipaux sont plus réduits que les temps de projet, les temps opérationnels. Donc ça paraît toujours très long pour un certain nombre de personnes, mais on a besoin de cette maturation, ce temps de processus.
Mais il faut pas vouloir le faire en force. Je crois que c'est ça surtout. C'est le faire avec un peu de patience.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième plateau consacré aux 30 ans du concours Europan, un concours d'architecture un peu particulier. Je vous rappelle, nous sommes à la Cité de l'architecture et du patrimoine tout l'après-midi à Paris pour échanger, débattre sur le rôle de ce concours d'architecture. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur Radio Campus Paris sur 93.9, sur Radio Campus Orléans sur 88.3 et sur Studio Zef à Blois sur 91.10. Donc on se retrouve donc pour un deuxième plateau, une table ronde qu'on a intitulée Europan Mentor, parce qu'on voulait se poser la question de la formation sur la volonté de ce concours de faire venir tous les ans un peu du 109 en limitant cette participation au moins de 40 ans. Un plateau dans lequel on va se poser des questions de l'innovation, de qu'est-ce qu'apporte cette jeune génération, sur les conditions d'émergence de l'innovation, sur ce qui rend possible une pensée peut-être un peu différente au sein de ce concours. On a vu pendant notre premier plateau qu'Europan, contrairement à un concours d'architecture plus classique, posait véritablement la question du territoire, de la réponse apportée en partant du territoire par rapport à un thème. C'est-à-dire que plutôt que de répondre à une simple commande, on part plutôt du terrain pour apporter la meilleure réponse possible. Alors pour cette deuxième table ronde, j'ai avec moi Julie Fernandez, qui est architecte chez LOG Architectes, qui est élue à l'Ordre des Architectes, à la Commission Nationale de l'Ordre des Architectes, CNOA. Et Julie Fernandez, vous avez été membre de la commission d'expertise du site de Rouen lors de la 12e édition d'Europan, et vous avez été experte du projet sur Goussainville sur la 13e édition. Merci d'être avec nous.
Merci. Bonjour.
Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Donc vous avez été sur le thème de la ville adaptable notamment. J'ai aussi avec moi Benoît Barnou, architecte et paysagiste. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Fondateur de l'agence Altitude 35. Une agence qui, d'ailleurs, au passage, s'est formée grâce à Europan, parce que vous aviez remporté le concours Europan 14, je rappelle, sur le thème de la ville productive, à Besançon, avec votre projet Jurassic Parks. Et qui vous avez aussi, ce qui est intéressant, remporté la consultation post-concours. Donc vous n'avez pas seulement apporté des idées, vous êtes sur le point de réaliser. Enfin, Marc Bringer nous a rejoint. Marc Bringer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte au sein de l'agence Laraki et Bringer et vous avez enseigné l'architecture à l'École nationale de Paris-Belleville. Vous avez été lauréat à deux éditions du concours Europan. Une seule, pardon. Et donc moi j'avais noté deux, mais c'est sur Europan 9 ou 10
c'est gentil, j'apprécie.
Je vous jette des fleurs. Donc vous avez été lauréat sur Europan 9. 10, c'est ça. Ouais. Donc c'était en Haute-Garonne.
Exactement, à Seille, dans le nord de Toulouse.
Dans le nord de Toulouse. Alors, sur ce plateau, on va essayer de se pencher cette fois sur les réponses au concours. On s'était posé la question du concours en tant que tel sur notre premier plateau. Là, on va se concentrer sur comment apporter la meilleure réponse quand il n'y a pas de commande, mais simplement un thème. Alors, en l'absence de commande architecturale, ou de programme précis, parce que normalement, l'architecte, c'est ça, répond à un programme d'un maître d'ouvrage. en l'absence de commandes, comment est-ce qu'on fait pour sortir une réponse architecturale, peut-être pour vous, Benoît Barnoux?
Alors, c'est un sujet extrêmement intéressant. La particularité des sujets qui sont proposés dans les différents sites, c'est d'être sans doute assez hybride. Sans doute que si ces sujets apparaissent sur le devant de la scène dans un concours comme Europan, c'est que les réponses à apporter ne sont pas évidentes et qu'il y a un besoin de...
C'est toujours des sites un peu complexes, j'ai l'impression.
D'expérimenter, de trouver des méthodes qui sont appropriées à un contexte particulier. Et ce qui est particulièrement riche aussi, de par l'échelle des sites et des sujets qui nous sont soumis, c'est que souvent les réponses ne sont pas univoques, mais il y a une pluralité de points de vue qui peuvent être entendus et dont la complémentarité peut justement contribuer à faire émerger un projet pertinent sur un territoire qui n'avait pas au départ un projet autonome et convaincant
si,
à proposer.
Si on se concentre sur Besançon, parce que c'est là où vous avez été lauréat de Europan 14, c'est ça,
absolument.
Sur la ville productive.
Oui.
Si je me souviens bien, le site c'était en partie une université. Et comment vous avez réussi à leur apporter une réponse, peut-être qu'eux ils n'avaient pas, et c'est pour ça qu'ils sont venus chercher des réponses à Europan. Comment vous les avez convaincus du bien fondé de votre réponse?
Alors Besançon, c'est sans doute un site qui est intéressant et qui est probablement représentatif de la complexité de ces sites qui nous ont soumis, c'est-à-dire que c'est effectivement une université, c'est également une technopole, donc avec une dimension industrielle assez forte.
Une technopole, c'est-à-dire un endroit où on concentre un peu les activités
productives. Les start-up et un espace dans lequel la production est finement articulée avec la recherche fondamentale qui se produit dans le domaine universitaire qui est juste adjacent.
Donc en fait, on avait un site avec la concentration de l'activité productive, mais sans vraiment penser urbaine.
Sans pensée urbaine et donc
une juxtaposition d'activités.
Un territoire complexe parce que à proximité d'une rocade, à proximité d'un quartier populaire avec un certain nombre de difficultés. Et donc au-delà de la question spatiale qui nous était soumise, il y avait une question de fond qui était comment arriver à agréger ces différents ensembles, ces unités qui sont relativement autonomes et tournées vers elles-mêmes aujourd'hui, quelles pouvaient être les logiques et les leviers pour faire quartier. C'est un site qui est assez emblématique et à l'image d'un certain nombre de quartiers qu'on peut trouver dans la périphérie de nos villes où les programmes sont assez séquencés, où les espaces sont morcelés. Et donc il y avait à la fois une dimension spatiale, une sorte de nœud à résoudre d'un point de vue de ces continuités et des rapports des unités les uns avec les autres.
Un nœud à résoudre.
Et une question de méthode, parce qu'au-delà de l'espace, il y avait une question de comment trouver les bons outils, à quelle échelle ça pouvait se passer, de quels étaient les acteurs publics qui pouvaient accompagner cette transformation.
Et quels outils vous avez proposés?
Alors, donc... La proposition du concours qui nous a permis d'accéder à cette commande, elle était essentiellement de regarder ce problème à différentes échelles et que c'était la complémentarité, la simultanéité de ces échelles qui pouvait permettre d'apporter une réponse satisfaisante.
Donc c'était un jeu d'échelle emboîtée de la grande région à la ville un peu,
exactement,
jusqu'au quartier.
Avec un raisonnement économique qui ne pouvait être valable qu'à une échelle régionale, qui englobait d'ailleurs les régions frontalières suisses et allemandes. Un raisonnement urbain, parce que quand on regarde l'entièreté de ce secteur, c'est une aire tellement vaste qu'il faut pouvoir l'interroger au regard de l'entièreté de l'agglomération du Grand Besançon. Et une échelle, qui était celle du campus, et de son articulation, cette
avec
fois-ci spatiale
ville.
Et programmatique.
D'accord.
Avec la ville.
Très bien. Julie Fernandez, sur cette question de la complexité des sites, j'ai noté que sur les réponses notamment, j'ai noté que vous avez témoigné lors de Europan, après Europan 12, il me semble, en disant que vous aviez privilégié dans les réponses l'effort mis sur des projets qui ne sont pas figés, qui laissent la place à la diversité des acteurs. Alors, j'aimerais que vous reveniez un peu sur cette citation. Qu'est-ce que vous appelez un projet pas figé?
Alors je pense aussi, pour rebondir sur ce que dit Benoît, c'est que Europan est un concours d'idées. C'est amener des idées, donc pas amener des choses qui sont arrêtées. Et surtout, dans la question de la ville durable et de la ville adaptable, il y a aussi cette dimension de faire avec les forces en présence, donc de faire avec tous les acteurs qui sont sur le terrain, et donc de les questionner, de questionner les processus qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir construire un terreau qui est favorable à l'émergence d'un projet. Et donc, que le projet se fasse petit à petit, par discussion, par concertation et avec l'impulsion de sachants et d'experts. Et donc, ce qui était très intéressant, que ce soit sur la Europan 12, donc sur
la ville adaptable.
La ville adaptable. Enfin, les deux sessions, Europan 12 et 13, étaient sur la ville adaptable.
Oui, c'était une variation sur le même thème, on va dire.
Voilà, et c'était justement de trouver des projets processus.
Des projets
qui mettent en place des méthodes de travail et des méthodes de travail inclusives. Donc, en invitant la collectivité à faire partie d'une équipe plus large, donc d'une équipe projet qui n'est pas juste l'équipe des experts.
Qui n'est pas juste la maîtrise d'ouvrage, les architectes qui vont décider d'un projet. C'était un peu élargir le cercle, d'une certaine manière.
Voilà, aller chercher aussi les habitants, les mettre dans l'histoire. C'est-à-dire, sur ces deux sessions, il y avait vraiment cette question du bottom-up, d'aller partir du terrain. Et tout à l'heure, il y avait une discussion assez passionnante sur la terre, ce que nous, ce que nous raconte la terre. Donc, c'est réancrer les projets dans leur territoire et partir des conditions physiques, mais des conditions humaines aussi.
Mais c'est ce que disait Christine Bulot, qui est directrice générale des services à la ville de Fos lors de notre précédente table ronde, et qu'elle disait que ça permettait Europan permettait de révéler le terrain, de retrouver un territoire que les habitants avaient un peu perdu de vue. C'est vraiment repartir du territoire pour faire projet. C'est un peu comme ça c'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure, qui était assez passionnante.
Voilà. Si vous avez envie que je vous parle deux petites minutes de ce qui se passe sur Goussainville, puisque...
Oui, vous avez été experte sur le projet à Goussainville. Donc, si vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que sur Rouen, vous étiez sur le site.
Non, sur Rouen, j'étais aussi experte des résultats du concours.
D'accord.
Mais par contre, il n'y a rien qui s'est passé derrière.
Ce qui est intéressant, c'est de voir la réalisation, du coup.
Voilà. Et sur Goussainville, donc...
Vous êtes toujours sur la ville adaptable, sur Goussainville.
Toujours sur la ville adaptable, sur la session Europan 13 à Goussainville. Il y avait une volonté très forte de la ville et de la communauté d'agglo
le projet, en fait. C'était pas seulement avoir des idées, un catalogue, c'était vraiment, on veut faire un projet sur Goussainville.
Voilà, ils étaient déterminés à faire un projet. Ça faisait plusieurs années qu'ils faisaient des essais pour retravailler ce morceau de ville qui est un délaissé depuis plus de 60 ans.
C'est-à-dire,
le centre, le cœur historique de Goussainville, qui a été abandonné au moment de la construction de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
D'accord.
Et,
donc, qui était dans le périmètre d'exposition au bruit de l'aéroport
voilà,
de Charles-de-Gaulle.
Voilà, c'est ça. Et donc, les propositions des équipes étaient vraiment de revenir dialoguer avec l'espace construit et les quelques habitants qui restent.
D'accord.
Pour recréer des dynamiques. Et ce qui s'est mis en place, puisqu'il y a une suite, là c'est du concret, c'est qu'ils sont, par cette première phase de concertation, ils ont remis du dialogue parmi les habitants, qui ne parlaient pas entre eux. 120 personnes dans le centre du village qui ne se parlaient quasiment pas.
Et donc ça a permis de leur doter à nouveau d'une vision pour leur site.
Surtout d'avoir envie de faire des choses ensemble, parce que les équipes qui sont justement multiples, et c'est ça qui est assez beau, Benoît en fait partie, il est aussi dans l'équipe de Goussainville en tant que paysagiste. Il y avait également des personnes spécifiques et compétentes sur la question de la concertation, plus des paysagistes, des architectes et des urbanistes. Et donc, ils ont commencé cette première phase d'exploration du terrain.
Avec les habitants.
Avec les habitants, en proposant aussi des orientations, mais surtout en laissant venir ce qui était là, ce qui était présent, en le révélant, en fait.
En révélant le territoire.
Et la ville était invitée, bien entendu, aussi à ces ateliers. Donc, ils ont parcouru le terrain avec les habitants. Et donc, ça a donné des résultats qui sont des résultats qui intéressent tout le monde et qui mobilisent.
Et aujourd'hui, à quoi ressemble le projet de Goussainville, concrètement ? Est-ce qu'on peut avoir une petite description ?
Il n'y a pas encore de projet.
Il n'y a pas encore de projet.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des idées de projet. Je pense qu'elles sont toujours dans la tête des trois équipes, parce que ce qui a été aussi assez exceptionnel, je pense, sur les suites d'Europan Goussainville, c'est qu'il y avait une équipe lauréate qui a été remise en compétition avec les deux autres équipes comme mentionnées.
On l'a vu, c'est une des particularités d'Europe 1, ça permet de présélectionner trois équipes qu'on met en concurrence ensuite pour une consultation d'architecture. C'est ce qu'on avait vu à la précédente table ronde, en effet, ce qui est très intéressant dans le concours Europe 1.
Et en fait, on a amené ces trois équipes à travailler ensemble.
D'accord.
Parce que les trois équipes étaient porteuses de réponses très très différentes et qui intéressaient la maîtrise d'ouvrage. Et donc il y a eu cette proposition. Alors je pense que j'ai essayé d'être le petit rouage, enfin le petit élément, la cheville ouvrière de ça, parce que toutes ces équipes proposaient évidemment de mettre autour de la table plusieurs dynamiques, plusieurs types d'acteurs, etc. J'aurais dit, mais attendez, vous avez des projets différents, vous portez des idées différentes.
Autant vous mettre ensemble.
Mettez-vous ensemble
pour apporter une réponse peut-être plus adaptée à la complexité du site.
Et puis très riche, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, et chacun dans votre domaine de compétences.
Par contre, là on parle de la Villa Data, ça a été lancé en 2014.
Ça a été, non, les lauréats, lancé en 2014, les lauréats c'était sur fin novembre, et en fait il y a eu un an et demi à peu près de discussions avec la maîtrise d'ouvrage pour qu'ils arrivent à refaire sortir donc l'appel d'offres, et que l'équipe ainsi constituée autour d'une association qui s'appelle Hyacinthe S'imagine réponde en fait à cet appel d'offres.
Et je voulais un peu poser la question du temps en introduction de ce plateau. On a entendu Brigitte Fourré. Brigitte Fourré, elle est maire d'Amiens, et elle dit qu'il faut laisser, il faut pas forcer les choses. Il faut laisser du temps pour le projet. Mais ce que permet Europe 1. Mais moi, je pose la question, est-ce qu'on perd pas du temps? C'est une question un peu bateau, mais est-ce qu'on perd du temps avec Europe 1 ou est-ce qu'on en gagne? Parce que ce sont des projets, sur certains exemples, on voit qu'entre l'appel à idée et la réalisation, il s'est passé 10-12 ans. Alors c'est une durée normale pour un projet urbain, mais à côté de ça, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les appels à projets urbains innovants, où en 18 mois, on a des projets incroyables à Paris. Voilà, je voulais poser un peu la question ouverte, si quelqu'un veut répondre, est-ce que ça prend plus de temps ou est-ce que ça prend moins de temps, Europe 1?
On peut s'y risquer et essayer d'amener quelques éléments de réponse.
C'est un peu les pieds dans le plat.
Le temps du projet urbain, de toute façon, il est long, et d'autant plus quand on considère des échelles de territoire qui posent des questions complexes et qui, par leur échelle, nécessitent un processus de maturation relativement lent. Il y a effectivement cette tentation aujourd'hui de lancer des projets, on peut le voir de la part d'élus, pour avoir un résultat rapide. Pour l'instant, c'est quand même un résultat sur papier rapide. Les appels à projets qu'on a vus sur la région parisienne, on est loin de voir le bout, et donc on est assez loin d'avoir la capacité de savoir combien de temps ces processus prennent.
On est encore au début. Je me permets d'apporter ce sujet parce qu'on parle d'innovation dans cette table ronde, et les promoteurs des appels à projets urbains innovants justement disent que c'est la méthode pour faire l'innovation. Marc Bringer, vous avez participé à un appel à projets urbains innovants sur Inventons la métropole du Grand Paris, à Bagneux, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'il vaut mieux disposer de suffisamment de temps pour innover comme Europe 1, ou est-ce que c'est par ce genre de nouvelles manières de faire des consultations qu'on fait naître l'innovation? Vous qui avez fait les deux, c'est intéressant.
En fait, les règles du jeu ne sont pas du tout les mêmes.
Oui.
Déjà à la base, donc c'est comme si on comparait deux animaux de deux espèces différentes.
D'accord.
Et qu'on essaye de voir la durée de vie de chacun entre une baleine et une poule, et qu'on arrive à en sortir quelque chose.
D'accord.
Donc, vous voyez, je ne réponds pas à la question.
Merci de souligner que ma question était mal posée.
non, pas du tout. Non, au contraire. En fait, le processus sur Inventons la métropole, qui se rapproche beaucoup de Réinventer Paris ou de toutes ces choses-là, je pense qu'elles ont subi une influence Europe 1, pas sur un calendrier ou ce genre de choses.
Pas sur le mode opératoire, mais sur la volonté d'innover.
L'envie d'innover, d'aller d'avoir des équipes constituées avec de la maîtrise d'ouvrage immédiatement pour que ça aille vite. Alors que sur l'Europe 1, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Il n'y a que de la maîtrise d'œuvre. Et de l'expertise hors maîtrise d'œuvre qui peut s'associer, comme des sociologues ou autres. C'est-à-dire un artiste, il peut très bien participer à un Europe 1. Hein.
D'accord. Oui, on a vu des exemples ouvert, où des géographes participaient. C'est très ouvert comme mode de réponse.
Donc en fait, Inventons la métropole, c'est effectivement la différence et l'urgence. C'est-à-dire que
c'est 18 mois.
C'est hyper rapide comme concours. C'est très compliqué parce que les équipes sont extrêmement grosses. Enfin, pour la plupart, pas pour tous les sites, mais en tout cas pour les sites les plus importants. Là aussi, c'est un concours européen ou mondial. Il y a des gens d'un peu partout qui participent. Nous, on nous a associés à MVRDV,
oui.
Ce qui tombait plutôt bien puisqu'on avait des affinités, on va dire, projectuelles avec cette agence. Avec qui on n'avait jamais bossé avant, donc c'était une découverte. Ça n'a pas été simple tout de suite, hein, puisqu'on était co-concepteurs en urbanisme et en architecture.
Ah oui.
Donc des concepteurs qui se rencontrent, et surtout des poids lourds comme MVRDV, en urbanisme et en architecture, ce n'est pas évident. Quoi.
Mmh.
Ils ont une méthodologie qui est l'inverse de ce qu'on nous a enseigné en France dans les écoles D'accord. d'architecture et d'urbanisme,
et du coup,
et même du paysage.
Et là-dedans, votre expérience Europan, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Vous étiez donc sur le thème « Inventer l'urbanité » en Europan 10.
Oui.
Qu'est-ce que vous a apporté d'avoir eu à réfléchir à ce type de thème 10 ans auparavant, ou une dizaine d'années auparavant?
Oui. En fait, ce qui nous intéressait, c'était de voir avec amusement que les thèmes d'il y a 10 ans revenaient de toute façon sur un site comme Bagneux avec la durabilité, l'agriculture urbaine et tout ça qui était déjà présent il y a 10 ans, même 20 ans. Hein. Nous, on a visité avant de faire l'Europan de 2009-2010, parce qu'en fait, on a fait le concours en 2009. On l'a rendu en fin 2009 et on a été déclaré lauréat en 2010. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu la temporalité rapidement. On est allé visiter des écoquartiers en Europe, donc, qui étaient très proches des villes, qui étaient en périphérie ou collées aux villes, pas au centre, mais aux périphéries. Donc en fait, ces choses-là, elles étaient déjà réalisées en Europe. Donc nous, quand on a fait un Europan, on avait déjà ce bagage-là pour s'inscrire dans cette continuité-là. On n'était pas là en révolutionnaire.
D'accord.
Donc la même chose pour l'IMGP.
D'accord.
L'IMGP, c'était un continuum de ces choses-là,
d'accord.
En discutant en plus avec un associé qui est hollandais et qui a une autre façon d'aborder ces choses-là, sachant que lui pratique déjà ces choses-là dans ses projets.
Pratique déjà cette manière de faire architecture dans ses projets.
Quand on vous a... Il est assez critique d'ailleurs sur ces choses-là.
Oui, j'imagine. Il y a beaucoup de monde qui est assez critique sur ces choses-là. Quand on vous a dit que vous avez découvert le thème « Inventer l'urbanité », vous avez pensé à quoi? Parce que c'est un thème très large, l'urbanité, on a du mal à définir
aujourd'hui. Là, il faut revenir, comme disait Benoît ou Julie, au contexte. C'est-à-dire c'est le contexte qui...
C'est le contexte qui dicte un peu le
thème. Qui dicte ces choses-là. Nous, on était dans un contexte, pas de tabula rasa, mais un moderne aurait qualifié ça comme ça. C'est-à-dire on avait des champs et on a un maire qui était extrêmement ambitieux, qui disait, voilà, moi, dans la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, mon village, parce que ça reste un village de Seille, va se positionner à proximité immédiate du PEX, du parc expo qui est en construction, qui doit être finalisé.
Et donc il fallait créer de la ville.
En fait, créer de la ville, c'était créer un intermédiaire, c'était plutôt de la rurbanité. Chose que nous, on a proposé, c'est pas notre terme à nous, hein, c'est un terme d'un...
C'est un terme d'un géographe.
D'un géographe, voilà. Et ça nous a beaucoup intéressé parce que ça donnait une solution entre ville et campagne. Bon, le classique, hein, vivre à la campagne mais avec les qualités de la ville, en ayant de l'agriculture qui persiste sur le site, puisque c'était une terre maraîchère à l'origine, qui était devenue agricole. Donc on ne voulait pas perdre cette chose-là. Donc le projet intègre de l'agriculture, enfin, la respecte à moitié, puisqu'il fallait quand même intégrer 500 logements.
Il fallait quand même imperméabiliser des sols, quoi. Fallait créer du
logement. Exactement. Et donc, contrairement à des sites où il n'y avait pas de programme, nous, on avait un programme précis.
Vous aviez un programme précis.
Voilà.
D'accord.
Donc là, le cas était très, très différent. Et un maire ambitieux, donc, qui disait, voilà, mon centre-village ne marche pas vraiment bien pour l'instant. Par rapport à ce qui va se construire autour, ça va marcher encore moins bien. Donc comment je fais ville ou en ville entre guillemets avec toutes ces transformations autour de ça sans détruire mon paysage, sans détruire ce qui fait la qualité du site existant.
Merci.
Vous m'arrêtez parce que je suis trop...
Non, il n'y a pas de souci. J'avais une question sur justement le passage de l'idée au projet. Donc ça vous concerne peut-être vous, Benoît Barnou. Comment ça... Parce que vous sortez d'école, vous répondez à Europan, c'est un peu tout d'un coup, c'est ce qu'on apprend. C'est pas ce qu'on apprend ni en stage, ni à l'école. On est dans le grand bain, maintenant il faut deviner comment on nage. Et comment ça se passe, ça, de passer de on sort de l'école à on construit un projet?
Alors déjà, je pense que c'est des... ce qui est intéressant dans ce concours, c'est les questions qui sont posées, qui sont des questions un peu... des sujets un peu boiteux parfois, qu'on a du mal à appréhender. Et c'est sans doute pour ça qu'ils arrivent dans le cadre d'un concours comme celui-ci. C'est que sans doute, ce sont des sujets qui se prêtent difficilement à des commandes classiques. On a du mal à baliser les périmètres, les enjeux. On a du mal à savoir qui associer à ces réflexions.
C'est ce que vous disiez, Julie Fernandez, sur le site de Goussainville. On a du mal à savoir qui est partie prenante de ce projet, un peu.
Exactement. Et c'est la grande vertu de ce concours, il me semble, c'est de proposer des sujets un peu iconoclastes aussi, qu'on a du mal à trouver, qu'on ne rencontre pas forcément à l'école, mais qu'on ne rencontre pas forcément habituellement dans le monde professionnel à travers des commandes classiques. Et c'est sans doute ça qui est le moteur essentiel de l'invention dans ce concours. C'est à la fois l'association entre des profils et des compétences parfois différentes qui permettent de faire mûrir une réflexion et d'inventer des nouvelles solutions. C'est surtout de proposer un cadre relativement ouvert dans lequel le spectre des réponses possibles est très large.
C'est-à-dire, dans la réponse que vous apportez, il faut proposer un cadre ouvert. C'est quelque chose qui... Il faut plus ouvrir de portes qu'en fermer quand on... Il ne faut pas partir sur un projet, une forme figée, comme ce qu'on disait plus tôt.
C'est-à-dire que le choix des sites et la formulation des sujets laissent possible un grand nombre d'options. Et c'est bien dans cette diversité d'options possibles que se situe l'intérêt du concours et de la variété des réponses. Alors que dans un cadre de maîtrise d'œuvre habituelle, classique ou d'études urbaines, on est souvent dans un système en silo un peu, où on a balisé le terrain, où on a déterminé à l'avance quels sont les bons interlocuteurs et quel était le profil attendu pour la réponse.
Marc Bringer, vous souhaitez intervenir ?
Oui, je pense qu'en fait, dans ta réponse, ce qui est intéressant, Benoît, c'est qu'il y a une abstraction totale faite de la partie sur l'économie du projet.
Oui, donc, en fait, ça n'a pas l'idée au début. Donc,
voilà,
on
n'a
pas d'économie, il n'y a pas de bilan d'aménageur, il n'y a pas de bilan promoteur.
Exactement. Donc en fait, il y a une extrême liberté.
D'accord.
Donc c'est quand même ce qu'il faut comprendre avec Europe, hein. C'est que la créativité et l'inventivité, elle est possible parce qu'il y a une extrême liberté. Alors que sur l'IMGP, doit faire un comparatif qui poursuit votre question à l'heure, on est tenu en fait par des bilans du promoteur souvent ou des promoteurs qui sont les mandataires de l'équipe. Donc c'est pas du tout la maîtrise d'œuvre, alors que Repan, voilà. Et on est tenu aussi par des phasages qui sont extrêmement aussi précis, qui doivent être assez précis, pour convaincre aussi les collectivités locales. Parce que les collectivités locales, c'est elles qui jugent en premier les projets. Alors que sur le Repan, c'est pas...
C'est aussi les collectivités locales.
C'est aussi, mais c'est pas seulement.
C'est pas seulement, elles sont accompagnées par des experts de projets comme Julie Fernandez. Vous souhaitiez intervenir sur cette question ?
C'était juste pour rappeler, oui, cette dimension, je crois que c'est très très important. Europan, c'est de l'expérimentation.
Oui, c'est ce qu'on...
Donc, qui dit expérimentation dit itération. C'est-à-dire qu'on ne touche pas juste forcément du premier coup.
Non, c'est try and fail. On essaye, ça ne marche pas, on recommence.
Et c'est surtout que ce processus de temps qui est plus ou moins long permet...
Cette itération-là.
Et je pense que c'est rappeler au commanditaire, c'est-à-dire à la collectivité, exactement, qu'ils sont dans un processus d'expérimentation. Et même pendant les suites, on y revient assez fréquemment en disant, attention, gardez la valeur de ce concours. Ce qui porte en lui, c'est qu'il va vous amener des propositions qui sont riches parce qu'elles sont à un moment donné questionnées. Restez dans ce questionnement qui a abouti à des propositions concrètes et à des réalisations, exactement.
Clairement.
Mais avec le temps de la maturation. Donc ça, c'est très important.
C'est vraiment ce que dit, je reviens sur cette citation, parce que je trouve ça juste et exprimé avec un peu la fraîcheur d'une élue qui découvre le processus. Mais la mère Damien, elle dit, ça permet de ne pas faire d'erreur sur la démarche globale. C'est-à-dire que ça permet de ne pas se planter, de ne pas faire un projet qui, 10 ans plus tard, on s'est dit, on n'aurait pas dû faire ça, c'est une erreur, ça ne marche pas. C'est un peu ce que permet Europan, d'éviter de faire des erreurs.
Ce serait plutôt aux vétérans d'Europan dire comment le
Est-ce qu'ils ont fait des erreurs.
Et je pense que... Parce
que des projets qui ne marchent pas, on en connaît, ça existe.
Ceux qui sont le plus à même de répondre à ça, ce sont les utilisateurs finaux. C'est-à-dire que ce soit aujourd'hui les concepteurs ou moi dans mon rôle d'accompagnateur ou d'accompagnatrice des suites, on ne peut
que porter la valeur de ce qui est proposé, mais on n'en connaît pas les aboutissements, c'est-à-dire la manière dont les usagers vont s'approprier ce qui va avoir été mis en place. Et c'est là où c'est véritablement réussi. C'est là où c'est réussi aussi, et ça on le sent en cours de travail, c'est quand la collectivité commence à adhérer et transforme ses propres positionnements, que ce soit par rapport à une maîtrise d'œuvre ou par rapport à d'autres actions qu'elle va faire sur sa commune. C'est-à-dire que les appels d'offres ne vont pas forcément être passés pareil, l'attention portée à la définition d'un projet va se faire différemment, etc. Donc c'est aussi toute cette valeur pédagogique d'échange qui peut y avoir et qui est je pense, aussi grâce à ce temps qui est assez long.
Mais comment on passe du concept au projet, en fait ? C'est ça vraiment la question que je trouve centrale dans Europan, c'est passer d'une idée, d'un concept à un projet. Est-ce que la forme précède le concept ou c'est après, au contraire, c'est le concept qui crée une forme architecturale ? Allez-y, monsieur.
Ça va être rapide. Le concept, c'est, pour moi, c'est une notion qui est très anglo-saxonne. C'est
d'accord.
Pas du tout latin.
Alors donc, ici, on est en France, on est plutôt dans une culture latine de l'architecture ou...
Moi, pour moi, oui. C'est-à-dire quand, justement, on nous associe à des architectes du nord de l'Europe, effectivement, c'est le concept qui prend le pas sur tout le reste.
D'accord.
Donc ça écrase littéralement la question du programme, la question de l'urbanité et tout ça. Donc ça peut être très violent pour la ville. Alors que quand on a une culture latine un peu plus du sud de l'Europe, j'ai l'impression qu'on est plus dans un tricotage, dans quelque chose qui est plus fin, qui est plus élégant. Pas que ce soit pas élégant ce que fait le Hollandais, mais y a un rapport qui est moins, fait avec l'histoire.
D'accord.
Est-ce que c'est dû au fait qu'ils sont à Rotterdam et que la ville a été rasée en 1943
ou que le territoire a été créé en prenant des terrains sur la mer, ou alors du coup c'est un terrain neutre. On parlait de neutralité du terrain plutôt.
C'est de la conquête, oui. C'est de la conquête de territoire.
Peut-être moins d'épaisseur du territoire de cette manière. Je sais pas. On va pas faire d'analyse à l'emporte-pièce. Mais oui, en tout cas, c'est intéressant. Donc le concept. Donc c'est une question de culture, et ce que permet Europan d'ailleurs, en mélangeant des architectes, des sites dans toute l'Europe et des équipes aussi dans toute l'Europe, ça permet peut-être de se confronter à d'autres manières de faire l'architecture.
Par exemple, cette question au travers de ton projet, je crois, Benoît, qui est transfrontalier, le Jurassique.
Jurassic Park.
Ouais, c'est intéressant parce que tout d'un coup, effectivement, on parle d'Europe. On parle d'Europe au vrai sens du terme, où on dit, voilà, on va chercher des connexions hors frontières. Comme de faire le Grand Paris, on essaye d'effacer le périphérique, là, on essaye d'effacer les frontières.
Parce que le territoire vit de toute façon sans frontières. Les gens se déplacent pour aller travailler en Suisse. Il y a cette question d'interterritorialité sur le site de Besançon.
Alors Besançon, c'était assez intéressant de ce point de vue-là, parce qu'aujourd'hui, on hérite d'une situation d'un découpage de frontières qui doit être réinterrogé d'un point de vue historique, parce que Besançon, c'est une ville qui a une économie qui est beaucoup tournée vers la micromécanique, qui est l'héritage de l'horlogerie.
Oui, c'est ça.
Et cette horlogerie, elle a pris son essor entre la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle, au moment où, avec la révocation de l'édit de Nantes, il y a toute une élite protestante qui arrive en Franche-Comté, qui donc n'est pas la France.
Qui n'était pas la France à l'époque.
Et qui investit massivement dans des manufactures horlogères. Et donc l'unité, la coloration économique qui est commune entre une partie de l'Allemagne près de Bâle, ce qu'on peut trouver dans le Jura suisse et dans la partie française du Jura, elle s'explique par une histoire commune qui était aussi l'histoire des fermes horlogères qui fait que pendant toute la période hivernale, l'hiver, les fermiers fabriquaient des horloges. Donc c'est assez intéressant, c'était une superposition entre une dimension géographique, une dimension économique. Et aujourd'hui,
et historique, parce que vous êtes allé chercher très loin dans la réponse à la question, vous êtes allé chercher l'histoire économique de la ville de Besançon. En
fait. Exactement, et c'est toute cette épaisseur de la géographie de l'histoire qu'il faut comprendre pour saisir que le Jura, qu'il soit suisse, français ou la partie frontalière allemande, pèse très lourd dans l'économie mondiale sur ce plan des micromécaniques, et que l'horlogerie de Suisse pour un japonais ou un chinois, c'est quand même quelque chose d'indépassable. Et donc, il y a une sorte de polarisation dans un domaine d'activité qui est quand même lié à quelque chose qui est historiquement qui imprègne plusieurs siècles d'histoire et d'évolution de l'économie. Donc ça, c'est assez fascinant. Ça veut dire qu'effectivement, sur des questions complexes de territoire qui nous sont posées, oui, on peut trouver que 15 ans, c'est relativement long, mais c'est souvent le temps des projets urbains. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en perspective.
Avec la grande histoire, enfin, la période plus longue, en tout cas.
D'autant plus qu'aujourd'hui, on ne fait sans doute pas du projet urbain de la même manière qu'on en a fait dans les années 80 ou précédemment, et que la capacité d'investissement aujourd'hui, enfin, globalement, hein, d'un point de vue macroéconomique, a tendance à fondre, donc on cherche à réinventer un peu de nouvelles méthodes. Et sans doute qu'il y a une nécessité de prendre son temps, une nécessité d'aller interroger le site dans toute son épaisseur, y compris historique, économique et sociale, pour arriver à faire des projets qui soient les plus efficaces possibles, avec une force de démultiplication importante.
J'ai l'impression que là, vous n'avez pas fait d'architecture, mais d'une analyse économique du territoire.
Alors, c'était l'entrée principale.
Ça paraît un peu contradictoire. Mais...
Pas vraiment, parce que la stratégie sur un campus, en termes de bâtiment, de construction, elle doit s'interroger au regard d'évolution de la pédagogie, de qu'est-ce que c'est qu'un campus demain, d'équilibres globaux, quel est l'équilibre entre une faculté à Besançon, le PFL de Lausanne et un pôle universitaire à Dijon. Donc c'est pour apporter des réponses pertinentes, y compris sur des petits périmètres, il faut arriver à le repositionner dans un cadre beaucoup plus large, à la fois géographique et puis avec une compréhension la plus profonde possible de d'où vient ce territoire et vers où on peut l'accompagner.
Dans une de vos interviews, j'y arriverai, Julie Fernandez, vous dites que vous avez que lorsque vous étiez experte pour Europan, vous avez favorisé les réponses qui permettent de raconter une histoire, qui ont examiné le site avec poésie. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette notion de poésie du territoire. Comment vous l'expliquez ?
C'est rigolo parce que je prenais trois notes. Et ce que raconte Benoît, c'est une manière de nourrir le projet, de fabriquer aussi des concepts. C'est-à-dire que les choses ne sont pas détachées. Ça, c'est pour revenir aussi à votre première question.
Oui.
Et moi, je suis très attachée à cette question de narration. Une narration qui nourrit de toute une série d'influences. Et une des premières attaches des narrations est celle que le site nous donne, que les habitants donnent, que les conditions économiques en présence peuvent donner. Et donc après, ça va petit à petit se cristalliser et prendre forme. Et prendre forme sous... C'est difficile à dire comme ça parce que c'est des choses qui vont se fabriquer petit à petit, qui vont apparaître, puis qui vont peut-être se redéfaire parce que c'est pas la bonne réponse au bon moment. Et donc il y a un processus aussi entre concepts. Je suis pas sûre de cette vision anglo-saxonne et latine. Moi, je le vois comme quelque chose de très imbriqué, c'est-à-dire que
le concept et la forme se répondent de manière un peu itérative, comme vous disiez.
Je pense pas qu'il y a quelque chose qui précède forcément la mise en forme. Enfin, c'est lié, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est une expérimentation, et puis c'est des méthodes qui sont propres à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des architectes qui vont travailler que sur des concepts. Ce que Marc voulait peut-être dire avec
son exemple de MVRDV.
Voilà, c'est vrai qu'on est sur des architectures ou des réponses urbaines qui sont toujours très très fortes et qui correspondent à une idée à un moment donné. Et puis il y a des attitudes beaucoup plus sensuelles, haptiques, poétiques, qui sont peut-être moins précises aussi et qui laissent justement
la place
qui sont moins dogmatiques ou totalitaires et qui laissent donc la place à chacun d'y rentrer, d'y pénétrer et puis d'y faire aussi son chemin, d'écrire sa propre histoire. Donc voilà, donc moi la narration
c'est comme ça que vous voyez la narration
est importante parce qu'elle à un moment donné elle peut être partagée et donc permettre à chacun de vivre la ville véritablement. Je pense que là, on a gagné le pari quand le projet, la mise en forme est partagée.
On arrive bientôt à la conclusion de ce plateau. On a parlé du temps long, le temps long du projet, le temps long de l'innovation, le temps long qui permet donc de raconter un site et qui permet peut-être de ne pas faire d'erreur ou en tout cas de faire en sorte de donner la place. Comme vous dites, j'aime bien cette expression, donner la place pour que le projet se fasse et pas imposer une vue qu'on aurait eue qui préexisterait par rapport au territoire. J'aimerais savoir si les uns les autres, vous auriez quelque chose à ajouter en conclusion de ce plateau sur l'innovation que permet Europan. Vous souhaiteriez ajouter un dernier mot avant qu'on rende l'antenne?
Moi, je veux bien ajouter un petit
Allez-y,
mot.
Allez-y, Marc Barger.
Parce que, avant de venir à cette émission, j'ai fait un petit tour de l'historique de l'Europan, parce que ça fait un moment que je regarde cette chose-là avec intérêt, donc j'y ai participé. Maintenant, je suis un peu périmé, mais je ne peux plus y participer.
Vous avez plus de 40 ans.
Voilà. Mais en fait, ce qui m'a intéressé dans l'histoire de ce concours d'idées, c'était qu'à l'origine, ça a été créé en réaction aux UP.
Oui, en réaction à l'architecture moderne, moi, j'ai l'impression.
Même, ouais, on peut dire carrément ouais, que c'était assez réactionnaire.
C'est la fin des années 70, c'est la fin des 70, le début des années 70, pardon, on se dit on arrête de construire en ZUP parce que
Exactement.
On commence à se rendre compte que ça ne marche pas, en fait.
Enfin, c'est surtout un on qui avait une position politique contre une autre position politique, je pense.
D'accord.
C'est-à-dire, c'était pas c'est global et général, tout le monde n'était pas forcément d'accord. D'ailleurs, d'accord. À l'époque, il y avait des vraies doctrines qui s'affrontaient, chose qui maintenant se totalement dilue. C'est impossible d'avoir une doctrine claire. Donc en fait, par rapport à ça, lié à ça, moi ce qui m'intéresse dans l'Europan, c'est peut-être de revenir à la source et de questionner en fait cette histoire d'être contre une production de masse qui revient en ce moment à la mode. C'est-à-dire qu'on construit de plus en plus de logements. Nous, on nous demande de faire des projets de 200 à 300 logements. Et on reste une petite agence. Donc ça veut dire que les grosses agences, elles font 500, 700 000 logements. Donc on revient
à
quelque part.
Projet. On revient à la massification de la production de
logements. Exactement. Donc l'urbanisme, il est vraiment d'actualité. Le paysagisme encore plus, pour penser les plaies plus qu'autre chose sur des grosses opérations. Et en fait, moi, je pense que l'Europan, il pourrait se ressaisir de la question, par exemple, du logement. C'est-à-dire que
ce qui était son but à la base, le
à la base, c'était un laboratoire de recherche et d'innovation sur le logement et sur la cellule du logement. Je pense qu'en ce moment, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire ne pas abandonner, on va dire, les thèmes actuels de réfléchir au grand territoire, au grand paysage. Moi, ça me va très bien. Mais par contre, il faudrait contrebalancer ça avec la nano-échelle du logement.
Du logement.
Et tout à l'heure,
il y a un risque de précipitation sur la production de masse de logement aujourd'hui. C'est comme ça que vous... C'est ça dont vous avez peur ?
Clairement, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a des débats ici même sur la qualité du logement actuel et sur des sociologues qui interviennent, comme Monique Eleb, qui a dit, voilà, moi, je trouve que c'est tout le temps le même plan répété à l'infini. C'est une catastrophe. Donc, si l'Europan pouvait servir à faire bouger les lignes, comme ça a été le cas dans le passé,
comme
sur
il
ces
l'a fait
choses-là,
déjà, oui.
Comme il l'a fait. Mais je pense qu'il y a des projets qui traitent de ça dans l'Europan actuellement, sur les dernières sessions. Comme nous aussi, on a essayé de faire bouger les lignes.
En tout cas, des réflexions sur justement ce pas de côté, cette vision décalée que l'Europan peut apporter.
Exactement.
C'est ce qui fait la beauté un peu de ce
concours. Isabelle, tout à l'heure, parlait peut-être d'intégrer dans l'Europan peut-être de nouveaux partenaires ou des partenaires privés. Je pense qu'il faut faire très attention à ça, parce que la liberté sera forcément bridée si on fait appel à l'économie. Et deuxième chose, ça serait par contre, à contrario, très, très intéressant de faire intervenir des partenaires privés pour leur dire, voilà, faites de l'innovation en logement, faites de la grande qualité en logement.
Donc pas de faire venir des partenaires privés pour imposer des bilans aux architectes. Garder cette espèce de
fraîcheur.
De fraîcheur et pas de naïveté, mais en tout cas de regard frais. Sur la production.
Naïveté, c'est beau, puisqu'on parlait de poésie. Moi, je pense qu'on pourrait le garder. Hein, c'est pas tabou.
C'est pas tabou, mais ça pourrait être mal interprété. Mais je vois très bien cette idée de regarder ce regard complètement neuf, en fait, sur les formes urbaines que permet ce concours. Et c'est ça qui en fait la beauté. Merci beaucoup aux uns aux autres. Merci Julie Fernandez. Merci Marc Bringer. Merci Benoît Barnoux d'être venu intervenir sur ce plateau consacré à l'innovation dans le concours Europan. Merci à vous d'avoir été sur les ondes de Radio Campus pour nous écouter parler de ce concours d'architecture qui fête ses 30 ans cette année. On vous dit à très vite, dans un quart d'heure, on enchaîne avec un troisième plateau. Merci beaucoup.